avez rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours à Kumbum en 1919. La guerre est finie, mais Alexandra réfléchit souvent à l'ordre du monde et dans son échange épistolaire avec Philippe, elle lui fait part de ses réflexions. D'autant que Philippe lui raconte dans cette dernière lettre son petit voyage au Maroc et cela suscite chez Alexandra des réflexions quant à la colonisation, la prise de possession d'un pays par un autre et finalement sur l'humanité. Mai 1919. Que les Marocains regardent les Français avec des yeux sans sympathie, il n'est pas difficile de le comprendre. Comment nos compatriotes du Nord ont-ils regardé les Boches? Nous sommes les Boches des Marocains. Nous ne ravageons rien leur pays, parce que ce serait contraire à notre intérêt, qui est d'y protéger une source de profit. C'est tout. Quand je ne sais quel général français a fait enfumer dans une grotte sans issue quelques centaines de réfugiés arabes, femmes et enfants compris, et que ces hommes postés à l'entrée tiraient sur ceux qui essayaient de s'échapper à travers la fumée. Ils préludaient au haut fait des Huns d'hier. Et quand les Anglais enferment leurs prisonniers Boers entre des barrières de fil électrisées, ils enseignaient aux Allemands ce que ceux-ci devaient appliquer plus tard aux infortunés Belges et aux prisonniers anglais. Nous sommes tous pareils, des brutes. Et ce n'est ni le président Wilson, ni la ligne des nations qui nous changera. L'égoïsme est la source de toute démence cruelle, la lutte pour la préservation, l'extension du moi. Les apôtres et les docteurs de toutes les religions peuvent prêcher, moraliser, s'évertuer. Leurs efforts sont et resteront en pure perte. Il est naturel que l'homme qui croit au moi chérie, ce sont moi. Cela est légitime et indéracinable. Son moi est son réel bien. Lui perdu, il ne le retrouvera jamais, rien ne le lui rendra. On veut vivre, être. J'ai écrit autrefois pour la vie et je ne me dédie pas. Celui qui croit au moi ne peut avoir qu'une devise féroce. Périsse l'univers si cela doit sauver mon moi, ma vie. Et cette devise-là, consciemment ou inconsciemment, elle est dans le cœur de tous, individus ou nations. Les martyrs, en sacrifiant leur vie ici-bas, croyaient en acquérir une meilleure dans l'autre monde. D'autres songent à la gloire, ce sont des commerçants qui prêtent à intérêt. Il y en a d'autres que l'instant pousse à se sacrifier pour leurs enfants. Et ceux-là suivent l'impulsion obscure de la bête qui défend sa progéniture, parce que la nature veut la perpétuation de la race. Ce sont des inconscients ou des imbéciles. Il y en a qui sacrifient leur vie, le cerveau excité par le bruit de la bataille, par des idées d'honneur, de patrie. Ce sont des ivrognes mentaux. Il y en a qui ont le cœur tendre et le don facile et donnent leur vie en aumône. Ce sont des saints. Il y en a qui, ayant pesé la somme des joies humaines et l'ayant trouvée légère, dédaigneux de la vie comme on l'est d'une guenille, laissent prendre la leur par qui veut, comme une chose sans valeur. Ce sont des philosophes. Et puis, par-delà tout cela, il y a celui qui a percé à jour l'illusion du moi, qui a cessé de prendre au tragique le mirage de la naissance et de la mort, celui dont l'esprit, libéré de fantômes imaginaires, se repose dans le grand vide où évoluent, comme les apparitions suscitées par un prestidigitateur, les mondes sans nombre. Celui-là est le seul qui, logiquement, puisse être sans égoïsme. Et puis, en suivant cette longue tirade philosophique, Alexandra dresse la liste des achats nécessaires que Philippe doit trouver et lui envoyer. Exigeante toujours, Alexandra, elle écrit « déjà demandé dans la lettre précédente ». Reste à Philippe à s'exécuter en trouvant ses marchandises complètement nécessaires à sa femme qui est à l'autre bout du monde. Je vous cite la commande. 6 paires de bas de laine très chauds, très solides, couleur brune de préférence. 6 paires de bas de coton très solides, pas de bas à jour ou fantaisie. Longueur de la semelle de pied, 22 cm. Je joins d'ailleurs un dessin du pied. Joindre 8 cartes ou boules de laine et autant de coton pour les raccommoder. Un très chaud gilet de laine, ce qui se fait de plus chaud et de plus solide. Tour de poitrine, 99 cm. D'autres articles, un ouvrage traitant de médecine pratique et simple pour les cas les plus courants. Description claire des symptômes et traitements. Un autre traitant de médecine pratique et simple pour les cas les plus courants. Description claire des symptômes et traitements. Un autre ouvrage du même genre mais relatif aux accidents, luxations, articulations démises, fractures, blessures, etc. et donnant des indications claires sur ce qui peut atténuer le mal dans un pays où nul secours médical n'est à espérer. Alors on comprend qu'elle ait besoin de ces manuels de médecine car nous avons déjà vu à plusieurs reprises que l'on vient la chercher pour venir soigner les gens. Alexandra est d'ailleurs avec elle une pharmacie indispensable pour elle et pour Alfour, mais qui sert aussi, parfois, à finalement soigner les autres quand ce n'est pas trop grave. Elle écrit « Je suis parfois médecin », ce qui signifie ici « sorcier ». Et Alexandra continue sa liste de courses pour Philippe. Un de ses petits ouvrages de gymnastique de chambre avec illustrations pour l'usage des gens qui veulent conserver leurs articulations souples et ne peuvent consacrer qu'une dizaine de minutes chaque matin après le tub, c'est-à-dire le bain. Un atlas anatomique montrant clairement les différents organes du corps humain avec quelques explications des planches atlas en couleur. Un ouvrage sur ce qu'on appelle prestidigitation de salon pour les gens du monde, description des tours faciles à exécuter et aussi merveilleux que possible. Peut-être aussi une boîte d'ustensiles pour exécuter ces tours. Alors Alexandra explique que c'est un haut lama, un homme instruit, qui lui a soufflé cette idée en lui apprenant qu'il avait pris des leçons de prestidigitation à Pékin pour épater des Chinois qui tourmentaient les gens et ainsi leur inspirer un salutaire respect. Et cette idée avait enthousiasmé Afour, moins Alexandra, qui n'aime pas duper les gens, mais force oblige. Les temps sont toujours incertains. En Corée, c'est la révolution et les Japonais se conduisent comme des brutes, torturent, fusillent. Quant aux Anglais et le Tibet, Alexandra écrit « Les Tibétains, s'ils doivent avoir un maître, seront mille fois mieux aux mains des Anglais qu'en celles des Chinois. Et ce qui s'est passé à La Grande le prouve. Des villages entiers ont été incendiés et les habitants affolés se sont enfuis dans les montagnes, dans la neige. Un grand nombre y ont péri gelés. » Alexandra craint en effet la révolte qui pourrait devenir une véritable guerre des populations mongoles et tibétaines contre la Chine. En juillet 1919, on retrouve Alexandra au Koukounor, En mongol, cela veut dire lac bleu, où elle va passer 3 mois, avec bien sûr Afour, plus quelques hommes du monastère. Le Koukounor, c'est un lac d'un grand plateau central asiatique sur les confins du Tibet et de la Mongolie, à plus de 3000 mètres d'altitude, avec une superficie de 4800 km². Des eaux salées, une sorte de mer intérieure avec 5 îles et dans l'une d'elles, un couvent de lamas complètement isolé par les glaces en hiver. Alexandra décrit ainsi le paysage du Koukounor. Le Koukounor, tout en steppe et en montagne, sans une seule ville ou un seul village, est la plus grande province du Tibet. On peut y marcher des mois sans en voir les limites. Et elle raconte à Philippe. Cela nous mena dans une large vallée où je commandai que l'on s'arrête. La nuit que l'on y passa était celle de la pleine lune et elle fut pleine d'aventures. Le cheval gris, effrayé, peut-être intentionnellement par des voleurs, brisa sa corde et s'échappa, entraînant dans sa fuite mes 2 mules. L'un des chevaux des soldats et une mule de charge. La galopade me jeta hors de mon lit, pensant que des maraudeurs enlevaient les bêtes. Le veilleur dit n'avoir vu personne et que les chevaux s'étaient effrayés eux-mêmes, mais je n'étais pas convaincue et je ne le suis pas encore, car la même nuit, 3 chevaux ont été volés à quelques kilomètres de là. Tout le monde fut sur pied et partit à travers la montagne. Il gelait. Ne voyant revenir personne, je me remis sous mes couvertures, seul dans mon camp déserté, l'oreille aux aguets et mon revolver près de moi, pensant que les voleurs pouvaient revenir essayer d'enlever les derniers animaux de charge. De temps en temps, j'allais faire une ronde dehors. Très pittoresque, je te l'assure, mais mon rhume allait mal. J'avais la fièvre et claquais des dents dans cette nuit claire et glaciale. Cela m'empêchait un peu de jouir de la situation. Vers 4 heures, à l'aube, quelques hommes revinrent. Les bêtes restaient introuvables. Quand soudain, nous les aperçûmes toutes ensemble au sommet d'une montagne voisine. La chasse recommença, les diaboliques bêtes s'échappant dès qu'on croyait les tenir. Elles nous menèrent ainsi presque vers 10 heures. J'ordonnai une amende pour chacun de mes 3 hommes, coupable de n'avoir pas attaché les bêtes solidement. Quant aux animaux eux-mêmes, une fois bien liés, ils furent fouettés d'importance. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour te conter un fait curieux. Ma grande mule s'est prise d'une amitié extraordinaire pour le cheval gris. Elle le suit comme son ombre, refuse d'avancer quand il reste en arrière, etc. Or, quand on a lié et battu son ami, la mule a pleuré, réellement pleuré, de grosses larmes. Et cela ne l'a pas empêchée d'être fouettée elle-même du reste. J'aime beaucoup mes bêtes, mais elles ne doivent pas se permettre de se sauver dans une région aussi peu sûre que celle-ci. Dans la montagne, il gèle toutes les nuits, même en août. Et cela ne me ravit pas, pas plus que de quitter le lac qui est merveilleux. Une mer en miniature, couleur de turquoise un peu verte, avec des vagues qui font de petits moutons les jours de vent et chantent en sourdine une petite chanson comme un faible écho de la grande voix de l'océan. Cependant, ce séjour au Koukounor va devenir, selon l'expression d'Alexandra, une véritable épreuve d'endurance. Le climat de la guerre favorisé, dans la montagne il gèle toutes les nuits, même en plein mois d'août, il y pleut beaucoup, et une nuit, il lui arrive une aventure pénible qu'elle raconte bien sûr à Philippe en septembre 1919. Une nuit, j'ai un étrange réveil. Je suis à plat ventre sur le sol, ma tante effondrée sur mon dos et ressentant une violente douleur au crâne. Mais comment suis-je là? Je n'ai jamais pu me le rappeler. Me voilà dans les ténèbres, au milieu de mes caisses, de mon lit de camp et autres obstacles, et avec sur le dos un poids énorme que je ne puis soulever. Je crie, je hurle en pure perte. Je m'épuise en efforts, me sentant prête à m'évanouir. Ma théière déverse tranquillement son contenu sur mon dos. Cela a dû durer longtemps. Enfin, toujours rampant sur le ventre. Puis je comprends. Ma tante s'est écroulée sous un poids trop lourd de neige inattendue. Je travaille comme je peux avec mes mains, le reste du corps toujours enseveli sous la tente, et j'émerge tête au ras du sol, au milieu d'une couche de neige montant à la hauteur du mollet. Juste à cet instant, Afour sortit de sa tente en simple pyjama pour un besoin naturel et s'arrêta ébahi devant ce paysage arctique. Il ne pouvait en croire ses yeux et supposait qu'il rêvait encore. Le jour pointait à peine, le vent faisait rage et la neige tombait cinglante et serrée. À côté de ma tente réduite en un tas de givre, j'étais debout en chemise de nuit, les cheveux défaits de ma hulutte sous la toile. Un tableau extravagant. Le petit comprend vite néanmoins ce qui est arrivé. Il accourt, je lui prends la main et tous deux en simple appareil, comme des personnages de vaudeville, nous dévalons pieds nus dans la neige, à travers les pierres et les trous invisibles, jusqu'à la tente du garçon. Nous devons être comiques à voir, mais nous sommes gelés. Je dis à Four, vite, donne-moi une de tes robes fourrées et endosse-en une autre, et puis réveille les autres, qu'ils nous fassent du thé, sinon nous allons prendre un terrible refroidissement. Me voilà, dans la plus belle robe d'hiver du gamin, qui me va comme un gant, car il est tout à fait de ma taille, un doigt plus court, ce qui l'enrage fort. Et plus tard, elle conclut sur ses 3 mois passés au Coucou Nord. À part le lac, qui est merveilleux, le pays ne présente pas d'intérêt bien spécial pour qui a vu les steppes confinant le nord de l'Himalaya. Ce sont des pâturages à perte de vue, de l'herbe, rien que de l'herbe sur des montagnes arrondies comme les ballons en Alsace. Je reverrai avec plaisir Kumbum et mes livres. Je crois que ces mois passés en plein air ne m'auront pas fait de mal. Je me porte très bien et déambule comme un lapin. En novembre, elle apprécie d'être venue à Kumbum. L'endroit me plaît de plus en plus, je ne m'en lasse pas. Certes, le paysage ne vaut pas celui que je découvrais du balcon de mon ermitage himalayen, mais tant d'autres choses viennent en compensation. Pour qui aime les livres, Kumbum est un paradis. Et un autre point de vue, le monastère niché dans le creux d'une vallée et s'étageant sur les deux montagnes qui l'encadrent, avec ses beaux toits dorés surmontés d'ornements et de bannières, est un très joli coup d'œil. En décembre 1919, Alexandra s'épanche longuement sur une histoire cocasse d'un homme âgé, veuf, et qui cherche une nouvelle femme. Il paraît que les directeurs de la mission ne jugent pas bon que ce barbon vive seul et dorme seul à cause du malin qui veille. Et on apprend aussi davantage sur les mœurs tibétaines. « Ces vices-là sont connus, écrit Alexandra, sont inconnus au Tibet, où les mœurs sont faciles, les divorces fréquents, de même que les unions sans sanction légale, mais tout se passe sainement. » Il dit que ce ne sont pas les Chinois qui ont le cœur impur, mais les missionnaires qui inventent et songent à de pareilles choses. Et j'incline dans son sens en ce qui concerne l'opinion des Chinois. Je crois qu'eux qui idolâtrent les enfants ne voient aucun mal à ce que les fillettes soient les gâtées de ce grand-père. Mais les missionnaires en savent peut-être plus long qu'eux et que moi. Il me revient un jour où, très innocemment, avec la liberté que l'on peut avoir entre gens âgés, je racontais à ce monsieur un fait dont j'avais été témoin. Un gamin servait d'interprète à son papa, qui ignorait le dialecte du pays, dans le marchandage d'une prostituée engagée pour la nuit, et qui, avec la superbe autorité de ses 12 ans qui n'ignorait rien, disait simplement à la fille « Quoi ? 5 $ ? Mais si papa vous en donne 4 et un bon dîner avant, c'est plus que bien payé. » C'était drôle comme trait de mœurs, mais il me sembla, à tort peut-être, que mon interlocuteur attachait un certain intérêt au côté lubrique de la chose. Alexandra continue aussi à travailler et s'est composée une belle collection des œuvres de Nagarjuna, dont les originaux sanskrits sont perdus. Nagarjuna est un moine philosophe, écrivain bouddhiste indien des 2e et 3e siècles. Cependant, elle écrit à Philippe. J'ai dû interrompre le travail de copiste par mesure d'économie, et il me manquera quelques ouvrages, mais ce que j'ai est déjà très bien. Je n'ose pas me risquer à traduire, il y a encore des finesses de langage littéraire qui m'échappent. J'espère pouvoir commencer la traduction l'année prochaine. Au point de vue des recherches orientalistes, c'est là une publication des plus intéressantes, car elle touche à la plus brillante période de la philosophie hindoue. Dommage que je n'ai pas 30 ans seulement. Il y a de bien belles besognes devant moi. Afour m'aide autant qu'il peut à des besognes diverses, encouragé par quelques taloches de temps en temps, tantôt cherchant des mots dans le dictionnaire ou tâchant de résoudre un cas de grammaire. En janvier 1920, Alexandra est toujours dans ce même état d'esprit de continuer à travailler, et malgré, on l'imagine, les sollicitations de Philippe connaissant bien la situation internationale. On le suppose car en effet, les lettres de Philippe pour cette période n'ont pas été rapportées par Alexandra. Tu penseras peut-être encore que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, le mieux serait de mettre un terme à mes pérégrinations asiatiques et de te rejoindre en Algérie. À cela, je répondais franchement, et ne t'en offense pas, je te prie, que cela équivaudrait à un arrêt de mort pour moi. J'en ai fait l'expérience au Japon. Plus tard, quand j'aurai eu du Tibet tout ce que j'en souhaite, quand les traductions auxquelles je travaille seront achevées, et quand j'aurai épuisé, si possible, l'enivrement, le charme magique de ce pays, il me sera possible de m'enfermer avec mes livres dans une chambre n'importe où. À l'heure actuelle, quelques raisonnements que je puisse me faire, et, ce qui est plus fort que tout raisonnement, quel que soit mon désir de te revoir, désir qui s'accentue de jour en jour, je ne puis pas m'arracher du Tibet. Il y a là un phénomène étrange que je ne m'explique pas. Je suis liée, clouée. Il n'y a pas d'effort de volonté qui tienne. Si je m'arrache, c'est ma vie que j'arracherai. Cela peut paraître absurde, fou, mais c'est ainsi. Je me raille moi-même, je me regarde avec dérision, mais cela ne change rien à la chose. Dans la même lettre, Alexandra annonce à Philippe la mort de son oncle Ludolphe et suit une longue tirade sur le caractère égoïste de sa mère. Et comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Me rappeler tout cela me fait penser à mes égoïstes parents, à l'avarice de ma pauvre mère, qui en était venue à refuser une taie d'oreiller ou un mouchoir propre à mon père mourant, après lui avoir retiré depuis longtemps déjà l'usage d'une serviette de table, ce qu'elle devait se refuser à elle-même dans ses dernières années. Mais où sont-elles maintenant les belles serviettes damassées qui s'empilaient dans les armoires? Où sont-ils les draps de lit en toile de Hollande, les assiettes de porcelaine fine dont on ne se servait jamais, et l'argenterie, et le reste? Ma mère s'en est refusé la jouissance, et nous n'en verrons rien. Une domestique, après avoir volé, sans doute, une large partie de tout cela du vivant de sa maîtresse, devenue inconsciente, a emporté tout ce qui restait après sa mort. La dureté de ma mère, son manque absolu de bonté, je ne m'en suis rendu compte que très tard, étant déjà femme et ayant vu le monde. Enfant, je croyais naïvement, les éléments de comparaison me manquant, que tous les parents étaient semblables. Et je me rappelle cette pensée qui me revenait sans cesse quand j'étais fillette. Mais pourquoi a-t-on des parents? Comme l'on serait heureux si l'on n'en avait pas. Et mon pensionnat était mon vrai home où je me plaisais. Tout cela sans doute était très bien pour moi, et je suis sortie de là très différente de caractère de ce que j'aurais pu être autrement. La solitude du cœur et de l'esprit, plus encore que la solitude physique, trempe les individus. Mais elle a payé, elle, la pauvre maman, pour n'avoir pas prévu ce qu'il pourrait résulter de sa conduite. L'ignorance couvre le savoir, ainsi errent les êtres, dit Krishna, dans la Bhagavad Gita. Parole d'éternelle vérité, mais qui demeure une simple parole et n'ouvrira pas les yeux des multitudes. Individus ou nations, nous allons tous ainsi guidés par notre folie, abusés par notre aveuglement, nous allons au précipice, à la douleur. Je crois que cela n'a jamais été plus vrai que pour l'Europe actuelle. Sensation étrange, seuil d'un au-delà singulier qui n'apparaît que dans un rideau de brume. Qu'y a-t-il au-delà? Nous ne connaissons de la vie que ce que nous en avons vécu. Enfin, je suis curieuse de voir ce qui va m'arriver. La nature de cet avenir va encore une fois beaucoup dépendre de toi. Et quoi que tu puisses décider ou puisses être forcée de décider, crois bien que mon affection te restera toujours bien vive et bien sincère. Philippe, tu m'as procuré le plus grand bonheur que j'ai jamais rêvé. Et ces années de voyage ont été pour moi des années de paradis. Mais tout est éphémère et impermanent, les paradis comme le reste. Alexandra est toujours à Kumbu. Elle travaille avec ardeur car elle ne pourra pas s'y éterniser pour accomplir sa grande tournée. Elle écrit à ce sujet et avec beaucoup de lucidité à Philippe le 7 février 1920. Il me faut compter avec mon âge qui s'avance. 52 ans. Les années ne peuvent m'apporter qu'une diminution de mes forces physiques. Je puis vivre 90 ans comme mon père, 87 comme ma mère, ou même dépasser la centaine comme deux de mes arrière-grands-pères, et je puis, jusque-là, conserver un esprit lucide, écrire des livres, etc. Mais je ne pourrai pas toujours rester en selle 8 heures durant, mener la rude vie de camp, être dehors sous les intempéries et me nourrir de la première chose venue. Il m'eût été agréable de continuer encore à bouquiner ici ou dans la région pour un couple d'années, mais il serait sage que je fixe à une année d'ici ma grande excursion. Lucide Alexandra, et pourtant l'histoire n'est pas terminée, et elle est loin d'être terminée. Mais arrivent maintenant les problèmes d'argent, cruellement d'ailleurs. Nous évoquerons donc cela mardi prochain, ainsi que le grand départ d'Alexandra vers sa grande excursion, comme elle l'écrit, c'est-à-dire Lhasa, la capitale interdite aux étrangers. Mais il faudra encore cheminer longtemps et l'excursion, comme elle l'écrit, sera bien longue. Bonne semaine et à mardi prochain.